Lecture dans le livre des Actes ce matin, et nous sommes au chapitre 6, et on va lire les versets 1 à 6. À cette époque-là, alors que le nombre de disciples augmentait, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées lors des distributions quotidiennes. Les 12 convoquèrent l'ensemble des disciples et dirent « Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères et sœurs, choisissez parmi vous sept hommes de qui l'on rende un bon témoignage, rempli d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les chargerons de ce travail. Quant à nous, nous continuerons à nous consacrer à la prière et au ministère de la parole. » Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils choisirent Étienne, un homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un non-juif d'Antioche converti. Ils les présentèrent aux apôtres et ils posèrent les mains sur eux en priant. D'entrée de jeu, je vous annonce qu'il y a une erreur sur la liste du ménage que Guy va s'empresser de rectifier, puisque d'après ce texte, ceux qui... donne des messages le dimanche matin, ne doivent pas servir aux tables, faire le ménage, etc. Donc Guy, tu pourras modifier. Évidemment, je plaisante. Et c'est justement l'objet de cette réflexion ce matin, c'est de montrer que ce passage ne nous dit pas ça, mais dit bien d'autres choses bien plus profondes. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion d'aller dans cette église? C'est à Houston. C'est l'église de Lakewood Church, c'est son nom, qui a une particularité, c'est que c'est la plus grande église aux États-Unis, 52 000 membres. Alors, rassurez-vous, ce n'est pas les 52 000 d'un coup, la salle n'a que 16 800 places, et du coup, il y a plusieurs services au cours de la semaine, des services en anglais, aussi des cultes en espagnol. Il se trouve que cette salle est immense et en fait, au départ, c'était la salle de basket des Houston Rockets, qui est une équipe qui joue en NBA. Et à la fin, début des années 2000, en fait, les Houston Rockets ont construit une nouvelle salle, plus grande, plus moderne, et cette église a eu l'opportunité de racheter les locaux et de les retaper pour en faire une salle de culte particulière. Si je vous donne cette image... C'est parce que, moi, une grande église comme ça, ça me fait rêver. Alors, rassurez-vous, c'est très personnel comme opinion, mais c'est une église qui a connu une croissance assez incroyable et qui a pu trouver des locaux aussi assez incroyables, mais quelque part, qui a aussi mis en place une sorte de formule, une recette, et qui est en mesure de dire, si on veut savoir comment faire pour créer une méga church, on envoie David là-bas, il prend des conseils, et il revient avec l'affiche, la to-do list à suivre, étape 1, étape 2, étape 3, et puis dans 10 ans. Alors, sauf que ce n'est pas si simple que ça, c'est une église qui est dans un contexte particulier, dans un pays particulier, avec une culture spécifique. Et ce qui marche dans un pays... ne marche pas forcément dans un autre. Il se trouve que dans ce passage, on lit « À cette époque-là, alors que le nombre des disciples augmentait ». C'est répété aussi juste après, au verset 7, « La parole de Dieu se propageait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait ». On a une église en croissance, on a une église qui explose. Cette première église de Jérusalem, c'est une église qui me fait rêver. C'est une église qui est inspirante parce qu'on voit que les gens ont soif de Dieu et qu'ils entendent l'évangile à tel point que lorsque, dans les passages précédents, c'est même pas tant les apôtres qui vont dans la rue pour prêcher l'évangile, c'est les gens qui viennent vers eux en leur disant « Mais expliquez-nous, c'est quoi votre message ?» Il se trouve que quelque part, on pourrait se dire, pourquoi l'Église est en croissance, c'est normal. Il y avait déjà 12 apôtres, qui étaient ni plus ni moins que des gens qui avaient vécu avec Jésus et qui avaient partagé sa vie pendant 3 ans, pour 11 d'entre eux en tout cas, et donc qui étaient les témoins directs de ce que Jésus avait fait. Donc évidemment, si on avait parmi nous les 12 apôtres qui auraient vu directement Jésus, on pourrait comprendre que l'Église explose. Sauf que voir les choses comme ça, c'est un petit peu raccourci, parce que, je relis le verset 1, « À cette époque-là, alors que le nombre des disciples augmentait, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées lors des distributions quotidiennes. » Avec la croissance, arrive aussi de la jalousie. Avec l'évolution de l'Église, arrivent des problèmes. Et ce qui est vrai pour l'Église, c'est aussi vrai pour notre vie. Il y a toujours une sorte de modèle parallèle où ça peut aller bien et en même temps, il peut y avoir des difficultés. Et dans notre Église, on est sans cesse confronté à ça, à la fois parce que concrètement, actuellement, on est plutôt dans une période de croissance de notre Église, on le voit bien au début du culte, la salle est pleine, etc. Ça pose question, qu'est-ce qu'on fait? Quelle solution pour que les personnes qui viennent puissent trouver une place pour s'asseoir? Et en même temps, bah, ça nous bouscule, ça veut dire du changement, ça veut dire remettre en question notre petite routine et notre manière de faire depuis 100 ans. Tout changement, tout bouleversement, ben, ça peut provoquer des difficultés. Ici, ça provoque de la jalousie. Il se trouve que ce qui est intéressant dans ce texte, c'est de voir que cette église de Jérusalem, cette église modèle, cette église qui nous fait rêver, c'est en fait une église qui a des problèmes. Et c'est une église qui dysfonctionne. Et certainement que l'église de Lakewood Church, contrairement aux apparences, c'est une église qui a aussi des problèmes. Et en fait, il y a un problème majeur théologique dont je n'ai pas le temps de vous parler maintenant. Mais ça ne veut pas dire que toutes les méga-churches ont des problèmes théologiques. L'intérêt de ce que j'aimerais partager avec vous ce matin, c'est de montrer que si même cette première église que l'on cite en référence, cette église de Jérusalem qui est extraordinaire, avait des dysfonctionnements, eh bien encore plus, sonnera aujourd'hui à des dysfonctionnements. On a fait, il y a 4 ans, un petit travail ensemble, tous ensemble, où on a déterminé ensemble les forces, les faiblesses, les opportunités, les menaces de notre Église. Ça nous a aidé aussi à réfléchir à notre vision d'Église, annoncer, accueillir, affermir, et à réfléchir pourquoi et dans quelle direction on voulait aller, quel choix d'action nous voulions faire. En effet, on est conscient que nous n'avons pas une Église parfaite et qu'il y a des choses qui doivent améliorer et puis il y a d'autres choses qui fonctionnent. Mais l'intérêt de ce passage, c'est de nous montrer que en réalité, il n'y a pas de recette miracle. Chaque Église est en fait un ensemble de personnes qui travaillent ensemble et dont la forme de l'Église elle-même ressemble aux personnes qui la composent. Pour le dire autrement, ça fait 11 ans qu'on arrive à Sonra. Il y a 11 ans, Sonra ne ressemblait pas et ne fonctionnait pas de la même manière que la manière dont elle fonctionne aujourd'hui. Et certainement que dans 11 ans, il y aura encore un autre mode de fonctionnement parce que les personnes auront changé, parce que les responsables auront changé, etc., etc. L'Église, telle qu'elle nous est présentée dans le Nouveau Testament, il y a un cadre général, mais il n'y a pas de structure précise. Ce que le Nouveau Testament nous dit, c'est que l'Église, elle est faite de personnes, que chaque Église correspond aux personnes qui la composent, que l'Église est surtout un instrument au service de Christ, au service pour Christ et au service par Christ. L'Église, c'est une communauté de célébration, une communauté d'adoration et de générosité, comme vous avez pu le voir avec Actes 4 et 5. Qu'est-ce que cela signifie de servir l'Église? Qu'est-ce que ça veut dire que de servir dans l'Église? Et quel est l'intérêt du service? J'aimerais répondre à ces questions avec trois réflexions. Premièrement, un esprit de service dans l'Église, des hommes au service de l'Église, et enfin, l'esprit du service dans l'Église. Premièrement, un esprit de service dans l'Église. Dans Acte 4, au verset 32, on lit « La foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils mettaient tout en commun. Avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Il n'y avait aucun nécessiteux parmi eux. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres et en faisaient des distributions à chacun en fonction de ses besoins. » Cette première église est une église qui est extrêmement généreuse. Et la manière dont cette générosité s'exprime, c'est à travers leur libéralité. Mais plus généralement, on voit dans ce passage qu'il est aussi question d'autres services, des services qui peuvent être spirituels ou des services qui peuvent être plus temporels, plus matériels. Par exemple, les apôtres expliquent que leur tâche, leur service, c'est la prière et c'est le ministère de la parole. Et ils vont choisir sept personnes à qui ils vont déléguer les distributions de l'aumône aux veuves et puis le service aux tables. On peut imaginer que c'était une sorte de resto du cœur, une banque alimentaire. Il y a à la fois du spirituel et du matériel. Il se trouve que cette première église, elle suit un modèle. Ce modèle, il est donné par Jésus. Jésus, à la fois, a apporté un message spirituel, une nourriture spirituelle, et à la fois, on le voit à de maintes reprises, guérir des malades, nourrir des personnes en multipliant des pains et des poissons, etc., apporter aussi des ressources matérielles. Cette réflexion montre que et nous rappelle que l'Église a un double rôle. Le service dans l'Église a un double objectif. Il y a un objectif social, temporel, il y a aussi un objectif spirituel. Ça veut dire que dans la manière dont nous gérons, par exemple, notre budget, il y a une ligne qui est en fait une ligne soutien en fait, aux personnes dans le besoin. On a budgété un certain montant que l'on est prêt à utiliser si on en ressent la nécessité. Le rôle social de l'Église s'exprime aussi à travers l'engagement des uns et des autres dans des associations comme le CEL, comme Alliance de l'Espérance, cette assoce qui bosse auprès des prostituées lyonnaises, et puis sous d'autres formes. Le rôle spirituel de l'Église, il s'exprime à travers les messages, bien sûr, du dimanche. J'y repensais, si on regarde depuis 2012, on commence à avoir parcouru pas mal de livres dans l'Écriture. Il y en a encore plusieurs sur lesquels on doit encore se pencher, mais on espère et on souhaite poursuivre ce parcours de la Bible qui se complète avec nos études du jeudi soir, du vendredi soir maintenant. Vendredi, on était dans Josué, chapitre 7. C'est Jérémie qui nous a conduits dans cette réflexion où, après la grande victoire de Jéricho, le peuple d'Israël a subi une défaite terrible. Ces parcours-là sont extraordinaires et on croit que c'est la mission de l'Église que de nous former, nous édifier, nous encourager à travers ce parcours suivi de la parole. Je ne veux pas revenir sur les différentes formations qui sont proposées aussi parmi nous et qui vont être proposées aussi à l'avenir, mais on croit que c'est utile pour cela. Le rôle de l'Église est donc à la fois un rôle social, un rôle spirituel. On est conscient que dans notre Église, nos actions sont certes existantes, mais elles ne sont pas forcément suffisantes ou elles ne sont pas forcément très nombreuses. Et c'est pour cela aussi que on est heureux de faire partie de l'appel qui nous permet aussi de voir tout ce qui se fait dans les autres églises lyonnaises et d'avoir aussi des actions qui sont complémentaires et qui touchent la population lyonnaise, pas seulement parce que Sonra fait des choses, mais parce que l'ensemble des églises à Lyon font des choses. Pour bien comprendre ce texte, il est nécessaire de le replacer dans le contexte du livre des Actes. Le début du livre des Actes, et en particulier Acte 2 avec la Pentecôte, ça correspond à la création de l'Église. Et Philippe Péria nous a expliqué que cette fête de Pentecôte, elle s'inscrivait en fait dans le calendrier hébreu, dans le calendrier hébraïque, et il y avait une vraie logique dans la manière dont l'Église se crée, dans les temporalités, etc. Et il se trouve que après la Pentecôte, c'est justement la fête de la fin des moissons. C'est donc une fête extraordinaire où on célèbre l'abondance que Dieu permet grâce à la récolte. Et dans la suite des livres de la loi, on découvre qu'il y a des conseils très précis qui sont donnés au peuple en lien avec la moisson. Dans Lévitique 23, verset 22, il est marqué « Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu ne moissonneras pas ton champ jusqu'au bord et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu laisseras cela aux pauvres et à l'étranger. » La générosité et la solidarité parmi le peuple de Dieu étaient prévues déjà dans le fonctionnement du peuple hébreu. Et cette création de l'Église est un événement extraordinaire et qui a pour objectif de favoriser justement la solidarité, la générosité, l'entraide et l'amour entre les personnes qui composent l'Église. On peut voir aussi un autre parallèle. La création de l'Église, ça correspond aussi, un peu plus loin dans les Écritures, à la construction du Temple par Salomon. Lorsque Salomon inaugure le Temple, la gloire de Dieu vient habiter dans ce Temple de manière extraordinaire. Il y a un nuage, quelque chose de glorieux qui s'exprime. C'est l'image de ce qui se passe à la Pentecôte dans Acte 2, lorsque le Saint-Esprit descend avec des langues de feu sur les apôtres et les disciples et qu'ils se mettent à parler dans plusieurs langues. C'est la gloire de Dieu qui vient habiter parmi eux. Et le temple était aussi le lieu où il y avait une boîte à offrandes, comme au fond de la salle ici, et où tout le peuple était appelé à soit donner de l'argent, soit donner de la nourriture, offrir des animaux en sacrifice, etc., pour que cela puisse être redistribué à la fois aux prêtres qui officiaient dans le temple, et puis les prêtres avaient la responsabilité de prendre soin des plus pauvres dans le pays et dans la ville. L'Église a la même responsabilité. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de William Booth? En français, William Booth. C'est dur de trouver la bonne prononciation. William Booth, c'est ce Britannique qui, fin 19e siècle, est frappé et touché par la situation des pauvres ouvriers, des prostituées, dans l'est de Londres. C'est le quartier qui est le quartier des dockers, le quartier de tout le commerce, etc. Et c'est un quartier extrêmement pauvre. Et il commence à entrer dans les bars, à entrer dans les pubs et à annoncer l'évangile. Il commence à y avoir des conversions. Et se dit, qu'est-ce que je fais de ces personnes qui se tournent vers le Seigneur? Il commence à les emmener dans les églises qu'il connaît pour que les églises les prennent en main. Et en fait, ça se passe mal. Les églises ne savent pas faire, ne savent pas comment prendre en main ces personnes qui sont des épaves de la vie. Et William Booth, du coup, crée une organisation pour prendre en soin ces personnes, l'Armée du Salut. Et cette histoire, malheureusement, est une histoire de l'Église depuis 2000 ans, de cette difficulté de l'Église à répondre à son rôle social de générosité, d'amour, d'amitié, etc. Et qui est un vrai défi et qui est une vraie question en soi. Et que malgré nos moyens limités, on ne peut pas occulter. Deuxièmement, des hommes au service de l'Église. Cette croissance de l'Église a nécessité de modifier l'organisation de l'Église. Certainement que l'action de William Booth, à la fin du XIXe siècle, la création de l'armée du salut, a nécessité de repenser la manière dont l'Église, dont les Églises fonctionnent, et d'être attentif à être ouvert aux personnes que l'on veut accueillir. Lorsque les disciples sont confrontés à cette croissance et à ce problème de jalousie, ils prennent une décision tout simplement organisationnelle. Ils vont nommer 7 personnes qui vont être responsables de gérer la distribution de l'aumône, de s'occuper des veuves qui avaient ce sentiment d'injustice, de jalousie, pour que les choses s'apaisent. Et puis d'autre part, pour aussi eux se décharger dans leurs tâches. Pourquoi est-ce qu'il y a un sentiment d'injustice entre les veuves des hellénistes et les veuves des hébreux? Les hellénistes, les hébreux d'abord, ce sont c'est une population juive, mais qui sont des juifs qu'on pourrait qualifier d'orthodoxes. Ils parlent juif, ils sont depuis très longtemps dans le pays, ils ont la culture locale. Les hellénistes sont des juifs bien souvent issus de la diaspora, qui sont revenus à Jérusalem, mais qui ont une culture grecque, qui parlent grec, et bien souvent qui ont aussi des prénoms grecs. Et il se trouve que entre les deux, au moment de la distribution par les apôtres, il semblerait que les hellénistes aient été négligés. Alors, oubli, est-ce qu'il y avait une sorte de sentiment de supériorité, d'infériorité? Le texte ne le dit pas, en tout cas, il y a des frictions. L'espoir, c'est que ces assistants, ils puissent répondre à ces frictions, ils puissent répondre à cette jalousie. Et il se trouve que ces 7, on ne sait pas grand-chose sur eux, mais on voit qu'ils sont nommés pour servir. Le texte est clair là-dessus. Et si on compare avec d'autres passages et où on retrouve ce terme de service, on voit qu'en fait, ces personnes-là sont ce qu'on appelle des diacres. On retrouve ça dans Philippiens, au premier verset, où Paul et Timothée s'adressent aux responsables et aux diacres de l'Église. On voit que, d'ailleurs, plus loin dans les Écritures, ces diacres, dans Romains 16, 1, ce n'est pas seulement des hommes, ça peut être aussi des femmes. Donc, quand je dis des hommes au service, c'est un terme qui peut être générique. Mais on voit tout simplement que les apôtres ici choisissent des personnes qui sont capables de prendre des responsabilités. Lorsqu'on voit qu'une église dysfonctionne, comment est-ce que je réagis? Ici, ce qui est intéressant, c'est que les apôtres proposent à l'Église de se réunir. Les 12 convoquèrent l'ensemble des disciples et dirent: quand je vois quelque chose qui dysfonctionne, plutôt que de rester dans mon coin et de critiquer et de réfléchir de manière théorique à ce qui pourrait être mieux fait, rien de mieux que de se mettre ensemble, de discuter et puis d'essayer d'avoir quelque chose de constructif ensemble. Ici, ce que les apôtres avec les disciples parviennent à construire, c'est une solution constructive pour répondre à ce problème d'injustice. Et de la même manière, face aux défis que Sonra rencontre aujourd'hui, il y a besoin aussi parfois de se réunir, de réfléchir et de trouver des solutions adaptées. Alors, on le fait en tout cas une fois par année, tous ensemble, lors de notre assemblée générale. Et puis, ça peut arriver qu'on le fasse aussi ponctuellement au cours de l'année. Mais c'est aussi notre souhait avec les anciens de s'entourer avec quelques responsables et personnes de confiance. Vendredi soir encore, on était en réunion d'anciens qu'on appelle élargie, avec 4 autres frères sur lesquels on souhaite aussi avoir des conseils et profiter de leur sagesse. voyez que l'Église, c'est une organisation vivante, ce n'est pas une structure figée avec une sorte de franchise qu'il suffirait de répéter avec une sorte de méthode d'organisation clé en main. L'Église, c'est une organisation qui s'adapte aux circonstances et aux besoins qui sont ceux de son temps. Mais pour que l'Église fonctionne, elle a besoin de personnes de confiance. Quels sont les critères de sélection de ces personnes de confiance ? Étienne, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas, Nicolas, ce sont tous des noms d'origine grecque. Cela laisse à penser qu'en fait, pour régler le problème d'injustice, les apôtres ont fait un choix simple, ils ont choisi des personnes qui justement n'étaient pas hébreux, mais qui étaient hellénistes. Et comme cela, ils étaient plus sensibilisés aux besoins de cette population. Le point commun entre ces sept disciples, c'est qu'on n'en a jamais entendu auparavant. Ce sont des personnes de qui on rend un bon témoignage. Ils sont remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et l'Église les choisit à l'unanimité. Par contre, il y a des points particuliers. Philippe, Étienne, on en entend parler après. Étienne, c'est un homme plein de foi, d'Esprit Saint. Étienne et Philippe, ce sont des prédicateurs, des évangélistes. Leur rôle ne se limite pas à servir aux tables, à distribuer l'aumône, ils sont aussi capables de transmettre la parole. Ils accomplissent des miracles. Et les cinq autres, par contre, on ne sait rien de plus. Ils ont juste fait le job. Ça nous fait penser à cette parabole où Jésus dit de ce maître qui rentre tard et le serviteur est encore là pour lui dresser la table, etc. Et à la fin, il dit, ce serviteur, il a juste fait ce qu'il avait à faire, servir. Ces sept personnes qui ont été choisies par l'Église ici pour servir vont juste faire leur job, et pour cinq d'entre elles, l'histoire les oublie, on n'entend plus parler. C'est un petit peu l'image aussi de ce que nous faisons dans cette Église. La plupart du temps, les services que nous faisons, nous les faisons dans notre temps, et puis une fois que ce sera terminé, peut-être dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, plus personne ne se souviendra de ce qu'on a fait. Et ça fait réfléchir sur les raisons pour lesquelles on sert. Parce qu'en effet, si mes motivations ne sont pas saines pour le service, il y a un énorme risque de frustration. J'ai tant fait pour l'Église, et voilà qu'il y a des plus jeunes qui arrivent, et c'est eux qui ont toute l'attention, on leur propose des formations, on les bichonne, on s'occupe d'eux, les anciens sont focalisés sur eux, et moi, on m'oublie. Ou encore, je suis en colère parce que il y a telle décision qui a été prise et on n'est même pas venu me voir pour me demander mon avis. On trouve facilement des raisons de ne pas se mettre au service dans l'Église. Je n'ai pas le temps, je ne veux pas le faire avec cette personne. Donc si jamais vous allez voir Guy pour changer votre binôme, vous précisez que ce n'est pas parce que vous n'aimez pas cette personne. Je suis désolé, mais ce n'est pas à moi de le faire. Ou encore, je suis trop jeune, je suis trop âgé. Un jour, on présente un gentilhomme à Louis XIV parce que ce gentilhomme sollicitait une charge à la cour du roi, ce qui est honorifique et puis intéressant à la période de Louis XIV. Puis le roi, il murmure à celui qui fait l'éloge de son protégé, il dit « Non, cet homme-là, il est trop âgé. » Et en fait, l'intéressé a entendu ce que disait Louis XIV, il a pris la parole et il a dit « Sire, je n'ai que 4 ans de plus que vous, et j'ai encore 25 ans à servir votre majesté. » Ce qui est formidable dans la vie chrétienne, c'est qu'il y a une arme extraordinaire et un service extraordinaire qui s'appelle la prière. Et pour le coup, pour prier, il n'y a pas d'âge. Mais j'aimerais insister sur un autre point. Quand on sert dans l'Église, quelles peuvent être les mauvaises raisons de mon service dans l'Église ? J'en ai listé 7, il y en a certainement plus, mais je vous propose de les écouter. Première mauvaise raison, attendre de la reconnaissance des autres personnes dans l'Église. Deuxième raison, être remarqué par une personne, ou plusieurs, ou toutes, pour satisfaire mon orgueil. Troisième raison, parce que je me compare aux autres. Waouh, tout ce que cette personne fait, c'est extraordinaire. Allez, il faut que moi... Ou à l'inverse, tout ce que cette personne fait, moi, j'arriverai jamais à faire ça, donc il vaut mieux que... Raison suivante. Je fais cette action, ce service-là dans l'Église, parce qu'en fait, personne ne le fera mieux que moi. Et il vaut mieux que ce soit bien fait. Penser que je dois préparer ma retraite éternelle, parce qu'on sait bien que notre retraite éternelle est une retraite à points. Chaque fois que je sers l'Église, je cotise des points. Mon niveau de bonheur au paradis va dépendre de ces points. Cette semaine, j'ai fait le ménage, 2 points. Cette semaine, j'ai joué au piano, 2 points. Cette semaine, j'ai dit bonjour à 3 personnes en arrivant à l'église, 2 points. Malheureusement, heureusement, ça ne marche pas comme ça. Dernière raison, ce que C.S. Lewis appelle le désintéressement. Le désintéressement, c'est-à-dire l'idée que je sers dans l'église parce qu'en réalité, j'ai fait service à la place d'aller au cinéma ce soir-là parce que voilà, je trouve que c'est important que je me sacrifie pour l'église. C.S. Lewis dit qu'il y a un problème avec cette attitude, c'est qu'en fait, un raisonnement comme ça est un raisonnement en négatif. Et alors que notre raisonnement devrait être en positif. Je suis venu à l'église au lieu d'aller au cinéma, non pas parce que je me suis privé de cinéma, mais parce que j'ai envie d'aller à l'église, et parce que je désire venir à l'église. Vous comprenez que, en fait, le service n'est pas une fin en soi. Pour le dire plus clairement, Dieu n'a pas besoin de notre service. En fait, l'église, ce n'est pas Pôle emploi. C'est pas salut, t'es là, ça tombe bien parce que juste. Alors, parfois c'est un petit peu comme ça quand même. On va voir les personnes pour leur dire est-ce que tu voudrais faire tel ou tel service. Mais en réalité, Dieu n'a pas besoin, Dieu n'est pas une agence de recrutement, c'est pas un chasseur de tête en disant j'ai besoin, pour tel service ou dans telle église, j'aurais besoin de telle personne, donc tiens, je vais recruter. Non. Bien souvent, on confond le service pour Dieu l'idée que en fait c'est vraiment pour Dieu qu'on le fait parce que Dieu a besoin qu'on le serve. Or Dieu en fait il voit bien tout ce qu'on fait dans l'église, mais en réalité bien souvent on fait les choses pour nous-mêmes. Et Dieu si on fait pas les choses, il reste Dieu et la terre continue à tourner et finalement l'église existe toujours. John Piper a écrit un article énorme dans lequel il dit ceci. La volonté de Dieu n'est pas d'être servi. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve n'est pas servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, le souffle et toute chose. C'est le discours de Paul dans Actes 17. Et Piper continue en disant, Paul nous met en garde de toute vision de Dieu qui ferait de lui le bénéficiaire de notre bienfaisance. Il nous informe que les besoins de Dieu ne peuvent être comblés de toute aide qu'on peut lui apporter. Ce serait comme si un ruisseau essayait de remplir la source qui la nourrit. Mais il y a quelque chose que nous puissions donner à Dieu sans que cela ne lui relègue le statut de bénéficiaire. Mais y a-t-il quelque chose que nous puissions donner à Dieu sans que cela ne lui relègue le statut de bénéficiaire? Oui. Non. Souci. Et il nous exhorte d'en faire autant. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Dieu va accepter avec joie tout ce qu'on lui offre qui montre notre dépendance envers lui. ainsi que sa suprême autosuffisance. Dieu n'est pas dépendant de notre service, c'est nous qui sommes dépendants de Dieu. Et j'aime bien cette image par laquelle Piper conclut, il dit « La grande différence entre l'oncle Sam et Jésus-Christ, Piper est américain, donc il parle des États-Unis, la grande différence entre l'État américain, l'oncle Sam et Jésus-Christ, c'est que l'oncle Sam ne vous enrôlera pas tant que vous n'êtes pas en bonne santé. Tandis que Jésus-Christ ne vous enrôlera pas tant que vous n'êtes pas malade. » Et c'est tout l'intérêt de ce passage. Il nous montre que nous sommes malades et que nous avons besoin de l'esprit du service, avec un E majuscule. Ce que Dieu souhaite, c'est nos cœurs, comme Étienne, plein de foi et d'Esprit Saint, des vies qui soient un bon témoignage, des personnes remplies d'Esprit Saint et de sagesse. Un cœur rempli des fruits de l'Esprit, c'est-à-dire l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Galates 5, 22. Et l'illustration même de ce principe d'un cœur rempli du Saint-Esprit comme clé du service, c'est Étienne qui nous la donne. Étienne, dans ce passage, il mène de front le service aux tables, la distribution des aumônes et la prédication. Et dans la suite de Actes 6, ça lui coûte cher parce qu'en fait, il est arrêté et il finit même par mourir en étant lapidé. Mais avant cela, il prononce un discours extraordinaire. Et vous savez comment commence son discours ? Ah oui, non mais en fait, c'est pas moi. Moi, je fais juste ce que les 12 là-bas m'ont dit de faire. Et puis, c'est eux en fait les responsables. Non, Étienne ne fait pas ça. À aucun moment donné, il se défile. Il assume le service qu'il a fait. Et ce qu'il met en avant, c'est celui qu'il sert, le serviteur de tous, Jésus-Christ. Et là, il prononce un des discours les plus incroyables de toute l'Écriture, acte 7, à la gloire de Christ, jusqu'à terminer en disant à ses opposants qu'ils se sont opposés au Saint-Esprit et qu'ils accusent même d'être des meurtriers. D'où vient un tel courage chez Étienne ? C'est pas du service qu'il a fait, c'est pas des actions qu'il a faites, c'est de l'esprit qui l'anime et qui le remplit. Et c'est l'esprit du service. John Piper poursuit son texte et dit « Alors, travaillons davantage. Mais toutefois, n'oubliez pas que ce n'est pas nous qui le faisons, mais c'est la grâce de Dieu qui est avec nous. Maintenant, obéissons-lui comme toujours. » Mais n'oubliez pas que c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Répandons la bonne nouvelle le plus que nous le pouvons et donnons-nous pour le bien des élus, mais ne mentionnons aucune chose que Christ n'ait pas faite par nous. Dans notre service, que Dieu soit le donneur et que Dieu soit le glorieux. Alléluia. William Carey, c'est un missionnaire fin 18e siècle, début 19e siècle, pour vous donner un repère, pendant qu'en France, c'est la Révolution, William Carey est parti en Inde et il est surnommé le père de la mission moderne. Et c'est un acharné de travail. Il fonde des écoles, il fonde même la première université en Inde et il traduit la Bible en bengali, en oriya, en assamaise, en marathi, en hindi, en sanskrit. Alors toute la Bible, certains morceaux. Alors pas tout seul, il a une équipe. Mais un travail incroyable. Le père de la mission moderne. Qu'est-ce qui est noté sur sa pierre tombale ? Un misérable, un pauvre et impuissant, ver de terre, en tes bras miséricordieux, je m'abandonne. Billy Graham, qui est décédé il y a un an, et demi. Billy Graham, qui est surnommé America's Pastor, le pasteur de l'Amérique, parce qu'il a côtoyé presque tous les présidents américains, il a eu l'occasion de les conseiller. Décédé l'an dernier à 99 ans, à l'origine de milliers, peut-être même de centaines de milliers de décisions pour Christ. Et si je faisais un petit sondage, je suis sûr que vous pourriez me citer des personnes qui ont donné leur cœur à Christ grâce au discours de Billy Graham. Ça tombe. Prédicateur de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, avec cette référence, Jean 14,6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Alors qu'est-ce que je vais mettre sur ma tombe? Je ne vous dis pas, je ne sais pas. Mais que la gloire soit à Christ et que notre service soit pour Christ, par Christ. Et à l'honneur de Christ. Amen.